Miracle de la technique. Bien, alors je pense la fois dernière, la dernière conférence, vous avez contemplé Dieu, nous avons parlé de Dieu, de ses perfections divines. Vous avez vu qu'il existe un bonheur infini en Dieu. Dieu n'a besoin de personne pour être heureux. Bien sûr, la Trinité se suffit à elle-même. Mais aussi, une des caractéristiques, comme on dit en philosophie, le bien est diffusif de soi. C'est un exemple très facile pour comprendre. Si vous êtes heureuse, vous allez chercher à partager, faire partager votre bonheur. Quand vous avez une tête d'enterrement, là, généralement, on reste tout seul dans son coin, on veut voir personne, tout le monde nous embête, bref. Donc on est tout seul, on est malheureux, alors on reste seul. Par contre, dès qu'il y a quelque chose qui vous fait plaisir, eh bien, vous cherchez à le partager, ce plaisir. Vous allez chercher à le faire partager à vos amis, à votre famille, etc. Eh bien, c'est l'illustration de cet adage philosophique, le bien est diffusif de soi. C'est-à-dire que Dieu a voulu faire partager son bonheur. Donc, lui, infiniment heureux, il a voulu que d'autres créatures le partagent. Et ce sont les anges et les hommes. Et à ces créatures, il leur a indiqué le chemin. Comment voulez-vous être heureux, participer à mon bonheur? Eh bien, je résume, tout simplement ma volonté, la volonté de Dieu, qui s'est exprimée, bien sûr, de différentes manières, mais si on marchait sur ce chemin de la volonté de Dieu, on arrive parfaitement au bonheur. Seulement, il y a un hic, c'est que ces créatures, précisément, n'ont pas voulu prendre cette voie de Dieu, elles se sont opposées à ce plan divin. Et comment se sont-elles opposées au plan divin? Eh bien, par le péché. Donc voilà un petit peu l'objet de notre conférence de ce soir, le péché. Si on voit d'abord qu'est-ce que c'est que le péché, la nature du péché, saint Augustin dit que le péché, c'est une action, une parole ou un désir en opposition avec la loi éternelle. Action, parole, désir en opposition avec la loi éternelle. En clair, comme vous l'avez appris dans votre catéchisme et dont vous vous souvenez parfaitement, le péché, c'est une transgression volontaire de la loi de Dieu. On transgresse volontairement la loi de Dieu. C'est, ni plus ni moins, une désobéissance à Dieu. Et par là même, donc, une offense de Dieu. Pourquoi? Parce que nous préférons notre volonté à la sienne, à la volonté de Dieu. Et en faisant ainsi, bien, nous violons les droits imprescriptibles qu'il a à notre soumission. C'est vraiment une désobéissance. Pour ça, on peut dire que le péché est essentiellement un désordre. Donc les choses ne sont plus en ordre, elles sont en désordre. Pourquoi ? Parce que ce péché s'attaque à l'ordre primordial qui a été établi par le Créateur. Donc vous voyez, Dieu, en parlant des hommes, je ne parle pas des anges, donc a voulu que l'homme soit soumis à lui-même. Et dans l'homme, eh bien, notre intelligence fasse obéir la volonté qui elle-même soumet la sensibilité. Donc Dieu a voulu vraiment cette belle hiérarchie. Eh bien, le péché va s'attaquer à cet ordre voulu par Dieu. On va s'opposer, bien sûr, à Dieu, et ensuite on verra les conséquences qu'il va y avoir aussi dans l'homme. Donc le péché, si vous voulez, s'attaque à l'ordre, on peut dire à l'ordonnateur, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Oui, on s'attaque à ce que Dieu a voulu comme ordre. Bon, bien sûr, souvent, sans le dire aussi brutalement, mais en tout cas par notre attitude pratique, l'homme pécheur va s'affranchir de la loi divine et on va proclamer notre droit à nous gouverner par nous-mêmes. C'est-à-dire on va être libre, soi-disant on va être libre. On veut aucun précepte, aucun conseil, on ne veut pas rendre compte. Donc on se fait sa propre fin. Alors ça, bien sûr, on ne le dit pas de manière explicite, mais au moins par les actes, on le pose. Voilà ce que dit un auteur, le Père Sineux. Donc l'homme, par le péché, donc, entend user et abuser à sa guise et sans contrôle, en propriétaire capricieux et prodigue, des ressources de sa propre vie et des créatures dont l'usage lui est concédé pour un temps, dans le seul but bien déterminé de favoriser son essor vers sa perfection spirituelle et sa destinée éternelle. Puis, tel un fils qui, non content de dilapider les biens paternels, n'a plus qu'insolence pour ce père, dont la seule présence lui est un constant reproche, le pécheur qui se plaît à saccager l'œuvre du Créateur en veut à Dieu de se trouver toujours là, témoin et juge de son jeu de massacre. Il voudrait éloigner ce regard gênant, le supprimer pour s'assurer l'impunité. Faute de pouvoir l'anéantir, il l'outrage et le blasphème comme pour se convaincre qu'il l'abaisse ou l'intimide et paralyse son autorité. C'est bien dit. Bien sûr, ce n'est pas toujours conscient, mais dans la pratique, ça revient à ça. C'est-à-dire qu'on ne veut plus de Dieu. On se fait notre propre maître. C'est ainsi que vraiment, on peut considérer le péché comme le plus grand de tous les maux, le mal par excellence. Pourquoi ? Parce qu'il s'en prend à Dieu, tout simplement. Un bien suprême et source de vie. Donc, on s'en prend à Dieu, source de vie, bien suprême, donc c'est forcément le plus grand des maux. C'est le plus grand mal. Et en tout cas, si le péché ne parvient pas à détruire Dieu, on pourrait dire, en tout cas, il réussit ce péché à priver l'homme de Dieu. Effectivement, le péché arrive à détourner l'homme de Dieu. Et donc, le péché arrive même à l'en séparer définitivement. Donc, le péché vraiment va causer une mort irrémédiable. Donc c'est en ce sens qu'on peut dire vraiment c'est le plus grand mal, c'est le mal par excellence. Il enlève la vie, Dieu est la vie suprême, et bien le péché s'oppose totalement à cette vie. On peut dire vraiment c'est la pire aussi des ignominies, parce que l'homme enfant de Dieu bien devient tout simplement le fils de Satan. Quand on change de maître, on abandonne le vrai maître et on se met malheureusement sous la protection de l'autre, de l'ennemi. Et ainsi, objectivement, il n'y a rien de comparable à ce mal. Même la mort, la souffrance, les revers, tout ce qu'on peut voir de mal dans ce monde, c'est rien par rapport au péché qui nous sépare totalement du souverain bien. Si on va plus loin, on peut même dire, selon l'expression que vous connaissez peut-être, on dit que le péché est aussi le mal de Dieu. Non pas que Dieu puisse en subir un détriment de son être infini, de son bonheur immuable. Bien sûr, Dieu ne peut pas perdre une once de son bonheur ou de son être. Mais quand même, le péché ravit à Dieu quelque chose de ce qu'on appelle de sa gloire accidentelle. On enlève quand même quelque chose à Dieu. Dieu a le droit d'obtenir cet honneur de la part de ses créatures. Et bien, par le péché, ces créatures enlèvent cette part de bonheur à Dieu, de ce qu'on appelle cette gloire accidentelle. Et même, on voit que les êtres humains que Dieu a créés pour le connaître et l'aimer, donc nous avons été créés pour connaître et aimer Dieu, eh bien, ces êtres humains vont non seulement le dédaigner, voire se détourner de lui, mais vont encore se servir de ses propres dons pour l'offenser. Oui, l'ingratitude. On va se servir des propres dons que Dieu nous a donnés, eh bien, pour l'offenser. Et ça aussi, c'est une source d'ingratitude. C'est vraiment le comble de l'injustice, de l'ingratitude, du cynisme. Prenez un exemple. Imaginez un de vos enfants à qui vous avez donné régulièrement de l'argent, un peu d'argent de poche. Eh bien, avec cet argent, il va s'acheter une arme et avec cette arme, il va vous blesser. C'est un comble d'injustice. Ça nous effraierait. Un enfant qui se retourne contre ses parents, déjà, c'est quelque chose d'affreux. Imaginez, c'est la même chose vis-à-vis de Dieu. Le péché, c'est ça. On se retourne contre notre souverain bienfaiteur. Donc, on va utiliser tout ce que Dieu nous a donné pour l'offenser. On retourne contre Dieu ce qu'il nous a donné. Voilà le péché. C'est ça le péché. Dans Marmion, ça c'est dans le Christ vide l'âme, qui est un très beau chapitre justement, vous pouvez lire pendant la retraite, un chapitre justement qui parle, qui a l'intelligence du péché, qui essaie d'expliquer précisément cette gravité du péché. Et à ce sujet, voilà le péché mal de Dieu, voilà ce qu'il dit. Ce terme, comme vous le savez, n'est strictement exact que selon notre façon de parler, car la souffrance est donc incompatible avec la divinité. Le péché est le mal de Dieu parce qu'il est la négation par la créature de l'existence de Dieu, de sa vérité, de toute sa souveraineté, de sa sainteté et de sa bonté. Que fait cette âme dont je vous ai parlé en accomplissant librement une action contraire à la loi de Dieu ? Eh bien, pratiquement, elle nie que Dieu soit la souveraine sagesse et qu'il ait le pouvoir d'établir des lois. Pratiquement, elle nie la sainteté de Dieu et refuse de lui donner l'adoration qu'il mérite. Pratiquement, elle nie que Dieu soit la toute-puissance et ait le droit de réclamer l'obéissance des êtres qui tiennent la vie de lui. C'est quelque chose qu'on n'a vraiment plus l'habitude d'entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des droits de l'homme. Toujours, bah oui, droit de l'homme, c'est mon droit. Eh bien, on ne parle plus des droits de Dieu. Mais Dieu a le droit à cela. Elle nie que Dieu soit la bonté suprême, digne d'être préférée à tout ce qui n'est pas elle. Elle ravale Dieu au-dessous de la créature. Non serviam, je ne vous reconnais pas, je ne vous servirai point. Cet homme répète cette parole du rebelle au jour de sa révolte, de Lucifer. Mais oui, il faut revenir là pour voir vraiment ce que c'est que le péché. Vraiment cette opposition, tout simplement, à notre Créateur. Quel cynisme, quelle injustice, quelle ingratitude de notre part en commettant ces péchés. Même si tout cela, nous ne le disons pas de bouche quand nous allons commettre un péché, mais au moins en pratique, c'est ce que nous disons. Ça revient à ça, là. C'est-à-dire, mon Dieu, je m'en fiche de ce que vous me dites. Moi, je fais ce que je veux. Bon, ce n'est pas aussi légalement dit que dans Marmion, mais ça revient à cela. Voilà pour cette nature du péché. Donc vraiment, c'est l'opposition à Dieu. Alors, on peut voir quelles sont les causes du péché. Qu'est-ce qui nous pousse à commettre ses fautes, ses péchés. Bon, les causes internes, c'est notre volonté. D'abord, la cause efficiente du péché, comme on dit, c'est-à-dire celle qui produit le péché, c'est quoi ? C'est notre volonté libre. Volonté libre de l'homme. C'est nous, c'est notre volonté. Parce que c'est de la volonté que naît le péché. Donc ça, il faut bien le retenir. Donc après, on verra les conséquences. Mais bien se dire, c'est notre volonté qui commet le péché. C'est pas notre sensibilité. Notre volonté va utiliser la sensibilité. Mais le péché est d'abord dans la volonté. Et cette volonté, elle est capable de pécher parce que, elle est naturellement imparfaite et donc elle peut abuser de sa liberté. Elle peut préférer les faux biens aux vrais biens. Ça, c'est notre liberté. Eh bien, la volonté peut abuser de notre liberté. La liberté qui est le choix des moyens pour le bien. Quel moyen je vais prendre pour arriver au bien ? Eh bien, malheureusement, on peut la détourner de sa fin. On peut utiliser un mauvais moyen. Donc ça, c'est une cause, bien sûr, interne du péché, c'est bien sûr d'abord la volonté. Ensuite, on peut trouver l'ignorance aussi. L'ignorance, quand elle est ce qu'on appelle vincible, c'est-à-dire quand c'est l'ignorance volontaire. Eh bien, l'ignorance, c'est-à-dire je ne veux pas savoir. L'ignorance volontaire, elle est une cause indirecte du péché, parce qu'elle écarte la connaissance qui aurait empêché de le commettre. Ah ben, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Alors le problème, c'est que, il peut y avoir une ignorance qu'on appelle invincible, c'est-à-dire que sans faute de notre part, on ne savait vraiment pas. Bon, alors dans ce cas-là, évidemment, il n'y a pas de faute. Si vraiment on ne sait pas, une fois qu'après on sait, effectivement, on devient coupable. Donc ça, c'est l'ignorance invincible. Par contre, il y a l'ignorance, celle dont je parle ici, qu'on appelle vincible, c'est-à-dire volontaire. Ah ben, je préfère pas savoir, comme ça, c'est ce que je veux. Ça, c'est une ignorance qui est coupable. Parce que précisément, ensuite, si on sait, eh bien peut-être cela nous aurait permis de ne pas commettre le péché. Mais déjà, ne pas vouloir le savoir, c'est déjà accepter de pécher. Déjà, bah oui, je ne veux pas savoir, parce que voilà, je veux me maintenir dans une certaine confusion de conscience, puis comme ça, j'essaie ensuite de réconforter ma conscience. Non, ça, évidemment, ce n'est pas loyal. Donc l'ignorance qu'on ne veut pas vaincre, eh bien, peut être aussi une cause de péché. Ensuite, quelles sont les causes externes? Qu'est-ce qui nous pousse à pécher? Bon, bien sûr, le démon, évidemment. Bon, bien savoir, et là aussi, il faut bien tout connaître, c'est que le démon ne pénètre pas dans notre conscience. Bien sûr, le démon ne pénètre pas dans notre âme. Dieu, oui, mais pas le démon. Donc là, il faut aussi se rassurer. Je ne peux pas, c'est le démon qui me fait pécher. Non, le démon reste à l'extérieur. Il reste à l'extérieur de notre âme. Il ne rentre pas dedans. Donc déjà, bien le savoir. Mais bien sûr, la conscience humaine lui reste fermée. Cependant, ça reste un pur esprit. Donc il lui reste la perspicacité du pur esprit. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va deviner dans les moindres indices extérieurs eh bien, l'état des âmes. Il nous observe et en fonction de notre réaction, eh bien, il va arriver à nous connaître. Bon, regardez, c'est facile à comprendre. Prenez l'exemple. Bon, ici, vous avez bien sûr, il y a des mères de famille, donc vous connaissez cela. Ou avec un de vos enfants, vous arrivez à deviner que votre enfant a fait une bêtise. Parce que ça se voit, il n'a pas la même physionomie, il est un peu confus, il essaie de se cacher. Donc tout de suite, la maman a dit « Ah, t'as fait une bêtise ». « Ah non ?» Généralement, « Non, non, pas du tout. » « Ah, je vois que tu as mangé des mûres. » « Ah non, je t'avais pourtant interdit. » « Ah oui, mais tu as mangé des mûres. Ah non. » Et puis avec toute la bouche toute violette, le grand sourire, les lèvres violettes. Oui, parce que la maman arrive à découvrir la faute qu'a fait son fils, sa fille. Donc oui, vous arrivez à savoir. Bien sûr, bon, plus ils grandissent, plus ils arrivent à mieux se cacher, c'est sûr. Mais généralement, quand c'est petit, c'est encore relativement facile. Mais oui, une maman connaît bien son enfant, donc... Et puis, avec la connaissance qu'elle a, plus l'intuition féminine, plus tout ça, eh bien, fait que vous allez arriver à connaître votre enfant. Ah ben oui, lui, il a fait une bêtise, etc. Eh bien, le démon, vous multipliez ça un peu plus, eh bien, c'est pareil vis-à-vis de nous. Il va nous connaître. Il va nous observer. Il va deviner l'état de nos âmes. Il va deviner nos secrets désirs. Il va deviner nos points vulnérables. Tiens, telle tentation, elle réagit toujours comme ça, etc. Donc, vous voyez, il examine. Donc, bien sûr, il va guetter le moment favorable. Et puis, à ce moment-là, schlac, une tentation. Et tac, tac. Puis là, on est ébranlé, etc. Bon, tout ça, vous avez Saint-Pierre qui le disait déjà, et c'est ce que nous chantons au début de Compli, chaque soir, à Compli. Saint-Pierre, c'est sa première épître, chapitre 5, verset 8. « Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde cherchant qui dévorer. » Ça, c'est ce que nous chantons tous les soirs au début de Compli. Vous ferez attention ce soir. Vous verrez tout de suite au début. C'est ça. Eh bien, c'est vrai. Il rôde. Donc, évidemment, c'est une cause externe de péché. Parce qu'il va exciter notre volonté au mal, eh bien, par son action sur l'imagination. Il peut agir sur notre imagination, sur nos facultés sensibles. Il peut agir dessus. Donc le but, c'est qu'une fois qu'il touche notre imagination, si je puis dire, il lui fait susciter ou des pensées ou autres, ben, il espère ensuite que la volonté va accepter. Donc, je vous rappelle bien, c'est la volonté qui est la cause du péché. Tant que la volonté n'accepte pas les pensées, la tentation, il n'y a pas de faute. Au contraire, il y a même un mérite parce qu'elle fait une bonne action. Elle préfère Dieu au péché. Mais lui, le démon, effectivement, va agir ainsi sur nos facultés sensibles. Ensuite, une autre cause externe du péché, et là, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on l'oublie beaucoup dans le monde aujourd'hui parce qu'on dit que l'homme est bon par nature. Donc c'est bien sûr la société qui le corrompt, vous le savez bien. Mais l'homme est bon, donc tout va très bien. Eh bien non, c'est un dogme essentiel qu'il ne faut pas oublier, c'est celui du péché originel. Notre nature est blessée par le péché originel. Et ça, ne pas l'oublier. Là aussi, c'est une cause externe de péché. Bon, rapidement, je vous rappelle ce dogme. Bon, vous savez que après la création d'Adam et Ève, donc Dieu les a mis dans un paradis et leur a fait, vous pouvez manger de ce que vous voulez, sauf le fruit de cet arbre, de la science du bien et du mal. Alors, pourquoi cette interdiction du fruit de manger de cet arbre ? Eh bien, tout simplement, le Créateur, Dieu, voulait rappeler à la créature sa suggestion. Vous devez obéir au Créateur. C'est uniquement but. Vous avez Bossuet qui le dit très bien. Il donne un précepte à l'homme pour lui faire sentir qu'il a un maître. Un précepte attaché à une chose sensible parce que l'homme est fait avec des sens. Un précepte aisé parce qu'il voulait lui rendre la vie commode tant qu'elle serait innocente. C'était quand même quelque chose de pas compliqué. Il y avait quand même plusieurs arbres. Non, il y en a un arbre. Donc il n'y en avait qu'un. Il ne fallait pas manger dessus. Ah, c'était quand même pas sorcier. Bref. Bon, vous connaissez l'histoire. Ève, un beau matin, se promenant, etc. Comme par hasard, autour de cet arbre-là. Donc je ne sais pas pourquoi elle n'était pas ailleurs. C'était comme ça. Bon. Et puis, ben voilà, puis le démon, prenant l'apparence de ce serpent, etc., puis s'engage cette conversation. Et puis voilà, vous connaissez la suite. Bon, pourquoi vous ne mangez pas de ce fruit-là ? Ah ben parce que Dieu a dit qu'on en mourrait. Mais non, c'est pas vrai. Dieu vous a interdit parce que si vous en mangez, vous serez comme des dieux, connaissant la science du bien. Vous connaîtrez tout, vous serez comme des dieux. Tilt. Ah, aïe, aïe, aïe. Et puis ensuite, la femme regardant le fruit lui parut beau et délectable à manger. En plus, il est beau. Ah, aïe, aïe, aïe. Et puis voilà, elle a craqué. Donc elle a pris le fruit et puis ensuite, non content de ça, elle en a pris deux. Et puis l'autre pour Adam. Et Adam, au lieu de lui dire « va remettre ça à sa place », non, ils ont mangé tous les deux. Et puis, vous connaissez la suite, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi se pécher ? Quelle est la cause ? Eh bien, la cause, c'est évidemment l'orgueil. Vous serez comme des dieux. Ça, c'est l'élément essentiel, connaissant le bien et le mal. Ils voulurent s'égaler à Dieu, devenir Dieu sans Dieu, devenir Dieu sans la grâce. Ils voulurent s'égaler à Dieu. Dans ce désir de similitude de la science du bien et du mal. Donc, c'est l'orgueil qui ensuite fait commettre la désobéissance. Orgueil, désobéissance. Bon, plus ensuite, effectivement, on peut trouver la curiosité, l'insensibilité, etc. Mais d'abord, fondamentalement, l'orgueil. Et puisque c'était une faute grave, oui, parce que la défense était grave. Si vous mangez du fruit de cet arbre, vous mourrez. Donc c'était quand même quelque chose d'une défense grave. Donc évidemment, c'est la gravité de la faute. Et cette gravité de la faute, on va le voir dans les conséquences. Pour Adam et Ève, quelles conséquences ? Eh bien, perte d'abord de la grâce. Ils perdent l'amitié de Dieu. Ensuite, tous les dons qu'on appelle préternaturels que Dieu leur avait donnés, en plus de la nature, eh bien, ça disparaît. C'est-à-dire, eh bien, la souffrance va rentrer dans le monde. Dieu va dire, Adam, tu travailleras à la sueur de ton front. Donc, il va falloir suer pour travailler, pour manger. Ensuite, la souffrance pour Ève, tu enfanteras dans la douleur, etc. Ensuite, la fatigue, etc. Donc, tout ce qui arrive, la souffrance qui arrive, la mort, bien sûr. Ils avaient avant l'immortalité du corps, maintenant c'est fini. Tu es poussière, tu retourneras en poussière. Donc, châtiment de la mort. Conséquence aussi, ce qu'on appelle la concupiscence, c'était la domination des sens sur la volonté. Alors qu'avant la volonté dominait parfaitement les sens, et bien maintenant c'est l'inverse. La volonté va avoir du mal à dominer les sens. Et puis pour nous, et bien les descendants d'Adam et Ève, et bien ce péché qui a été un péché de nature, parce qu'en tant qu'ils étaient le premier couple de l'humanité, eh bien, ils ont transmis ce péché à toute leur race, à toute la nature humaine. Bon, l'exemple qu'on prend pour expliquer cela, c'est la source. Vous empoisonnez une source, eh bien, tout le fleuve ensuite est empoisonné. Eh bien, c'est pareil. Adam et Ève ont commis ce péché de nature, ce péché de race, eh bien, toutes les conséquences retombent sur nous. Ce qui fait que nous, eh bien, quand nous naissons avec ce péché originel, avec les conséquences. Même si le baptême efface ce péché, néanmoins, il reste ces conséquences du péché originel, ces blessures du péché originel, blessures dans notre intelligence, par l'ignorance, justement, blessures dans notre volonté, la malice. Au lieu de chercher le vrai bien, elle cherche les faux biens, elle se poursuit vers les faux biens. Et puis blessure dans la partie sensible, faiblesse pour le bien. Nous sommes faibles pour vouloir le bien. Et puis cette blessure donc de concupiscence, désir désordonné des biens sensibles. Voilà les conséquences du péché originel. Donc cela, ne l'oublions pas, c'est aussi évidemment une cause aussi du péché. Et puis dernière cause externe du péché qui nous pousse dans ce péché, c'est bien sûr ce qu'on appelle le monde. Le monde en tant qu'il est la cause de péché par ses scandales, ses préjugés, ses maximes, par les terreurs qu'il inspire ou par les charmes au contraire séducteurs. Bon, bien sûr, ici, vous savez, le monde, ce n'est pas l'univers. Non, le monde ici, c'est, on entend de la foule qui fait de la fortune, des honneurs et des plaisirs l'objet de son culte. Quel est le culte du monde? La fin dernière du monde, aujourd'hui, c'est quoi? Il faut gagner un maximum d'argent. Pourquoi? Pour le dépenser un maximum. Dans quoi? Dans les honneurs, dans les plaisirs. Travailler plus pour gagner plus, non, pour dépenser plus. Plus dans quoi? Ben dans les plaisirs, évidemment. Les plaisirs selon l'ordre divin? Bien sûr que non. Donc ça, le monde aussi, effectivement, avec ses publicités, avec tout ça, bien, est un cause de scandale, de péché. Voilà un peu ces causes qui se liguent contre nous pour pousser notre volonté à offenser Dieu. Voyons maintenant la gravité du péché, après avoir vu sa nature, ses causes. Quelle est la gravité du péché? Alors, il est deux fois que tous les péchés ne sont pas égaux. Donc, non, il y a une hiérarchie dans les fautes. Et même le Concile de Trente va définir aussi, contre Luther et Calvin, tous les péchés ne sont pas mortels, à la différence de ce que disaient Luther et Calvin. Il y a aussi ce qu'on appelle des péchés véniels. Alors parlons un peu du péché mortel d'abord. Qu'est-ce que c'est que ce péché mortel? Vous savez que c'est l'offense de Dieu qui nous fait perdre son amitié. Nous perdons l'amitié de Dieu et qui nous mérite la peine éternelle. Voilà le péché mortel. Nous perdons l'amitié de Dieu et en conséquence, eh bien, nous méritons une peine éternelle, l'enfer. Alors, pour qu'il y ait un péché mortel, je vous rappelle votre catéchisme quand même, il est bien utile de le rappeler de temps en temps, il faut toujours les fameuses trois conditions ensemble. Il ne faut pas qu'il en manque une, autrement il n'y a pas de faute mortelle. Il faut les trois ensemble. Ce qu'on appelle la gravité de la matière, matière grave, la pleine advertance de l'esprit, ou si vous voulez, la pleine connaissance, et puis troisièmement, le plein consentement de la volonté. Donc matière grave, pleine connaissance, plein consentement. Alors comment on sait si une chose c'est grave ou pas? Est-ce que c'est un péché grave ou pas? Si, au niveau de la matière, je vous dis, c'est matière grave. Comment on sait si c'est une matière grave? Eh bien, on le sait tout simplement d'abord par la Sainte Écriture, donc ce que Dieu nous a révélé dans la Sainte Bible. Qu'est-ce que Dieu considère cela comme une faute grave ou pas? Bon, je vous ai parlé de la défense qu'il avait faite à Adam et Ève de manger du fruit. Oui, c'était une défense, c'était matière grave, puisqu'il avait attaché un châtiment qui était grave. Mourir, c'était évidemment un châtiment grave. Donc on voyait bien que la matière était grave. Vous voyez, par la Sainte Écriture, nous révèle si telle ou telle chose, telle matière, telle action, telle chose est grave ou non. Sainte Écriture. Ensuite, évidemment, l'Église qui va interpréter, qui est l'interprète authentique de la révélation. Donc l'Église va préciser hein, par les pères de l'Église, les théologiens, bien sûr les papes, les conciles, qui va nous dire, ben voilà, si telle ou telle chose, c'est matière grave ou pas. Et puis ensuite, la raison éclairée par la foi. Aussi, des raisonnements éclairés par la foi qui va nous dire, ben oui, la conséquence, c'est que telle chose est grave. Alors, quels sont les péchés qui sont considérés comme graves, comme matière grave? Très succinctement, bien sûr, je ne fais pas un catalogue. Tous les péchés, d'abord, qui attaquent évidemment directement Dieu. Ce sont les péchés les plus graves, évidemment. Ou quelqu'une de ses perfections. Blasphème. Blasphème, c'est matière grave, évidemment. Parce qu'on attaque l'honneur de Dieu. Ensuite, tous les péchés de luxure. Parce que là, évidemment, ils s'opposent à la procréation, disons, ce qui est une chose grave, puisque, ben, évidemment, il peut y avoir une vie qui peut venir. Donc, tout ce que Dieu a ordonné pour participer, pour coopérer à cette création d'un être nouveau, eh bien sûr, est matière grave. Donc, Dieu a donné des règles, des lois que nous devons respecter sous peine, effectivement, de fautes graves. Ensuite, il y a des préceptes graves qui ont été établis en tant que tels. Par exemple, la messe le dimanche ou le jeûne tel jour, le mercredi des cendres, etc. Donc tout ça, c'est aussi matière grave. Et puis autrement, des péchés qui blessent gravement le prochain, dans les biens de sa vie, par exemple. Bien sûr, tuer quelqu'un, évidemment, un innocent, ou dans sa fortune, ou dans sa réputation. Attention. Souvent, on ne tient pas compte de la réputation du prochain. Ben, si, le prochain a droit à sa réputation. Donc ça, c'est la fameuse médisance ou calomnie. Donc là, on peut pécher gravement aussi, évidemment, quand on nuit gravement au prochain dans sa réputation. Bon, voilà, disons, quelques grandes catégories de péchés considérés comme graves. Donc, matière grave. Ensuite, bien sûr, comme je l'ai dit, la connaissance. Pleine advertance. C'est-à-dire on connaît la gravité de la faute. Oui, deuxième condition, on sait que c'est grave. Je ne vais pas à la messe le dimanche, je le sais, je sais que c'est grave, c'est une obligation grave, ben, je n'y vais pas. Et puis ensuite, bien sûr, dernière condition, plein consentement. Donc je n'y vais pas, je le veux vraiment, je ne vais pas à la messe le dimanche. Je ne veux pas. Parce que j'ai la flemme, etc. Alors évidemment, si on est malade, ça, du coup, il n'y a plus le plein consentement. Ah ben non, on n'y peut pas, je suis malade, et puis bon, c'est normal. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a plus de faute. Plein consentement, là où souvent on doute si on a consentement ou pas consentement, bon, c'est le coup classique du demi-sommeil, du rêve, est-ce que j'étais réveillé, pas réveillé, est-ce que j'étais... Bon, ben non, évidemment, quand on rêve, a priori, on n'est pas réveillé. À moins de rêver éveillé. Mais dans ce cas, c'est plus un rêve, c'est qu'on est dans la lune. Bon. Non, évidemment, quand on est ce qu'on appelle un état de demi-sommeil ou de rêve, bah, par définition, il n'y a pas plein consentement. Bah, non. Mais j'ai consenti dans mon rêve. Bah oui, mais c'est un rêve. Ah, bah oui, donc ce n'est pas un plein consentement. C'est un consentement dans le rêve, mais non, ça reste un rêve. Bref, donc ça, en tout cas, quelqu'un qui est un somnambule ne peut pas commettre un péché mortel. Bah, bah non, il se prend un mur ou je ne sais pas quoi, non, mais enfin... Non, parce que définition, il n'y a pas plein consentement. Voilà, donc il faut bien sûr ces trois conditions. Matière grave, savoir que c'est grave, pleine advertance, pleine connaissance et plein consentement. S'il manque une de ces conditions, vous savez qu'on peut commettre un péché qui est un péché véniel. Alors, quels sont les effets de ce péché? Bien sûr, effet terrible, il chasse Dieu de notre âme. C'est vraiment l'effet le plus affreux. Donc Dieu qui est dans notre âme par l'état de grâce, eh bien il est chassé, on chasse Dieu. On perd la grâce sanctifiante, on perd cette amitié avec Dieu. Essayons de savoir ce que c'est quand même. Cette amitié de Dieu, on la perd, on chasse Dieu. Et en conséquence, eh bien on perd tout ce qu'on avait acquis de bien. Tous nos mérites qu'on avait acquis, ben, c'est perdu. Tout ça c'est perdu. Et bien sûr... Conséquence suprême, si la mort nous surprend dans cet état, eh bien, c'est l'enfer, bien sûr. L'enfer avec ses horreurs et ses éternelles souffrances. Alors ce péché est mortel et il faut bien réaliser que c'est vraiment un obstacle infranchissable à l'union avec Dieu. Saint Thomas donne bien cette belle définition qui fait comprendre ce que c'est vraiment le péché mortel. Aversio ad Deo, conversio ad naturam. C'est-à-dire, on se détourne de Dieu pour se tourner vers la créature. On se détourne de Dieu pour se tourner vers la créature. Voilà le péché mortel. On se détourne totalement de Dieu pour se tourner totalement vers la créature. Donc l'âme, bien sûr, n'a plus la vie divine. On préfère la créature à Dieu. On fait un choix. Je vous rappelle bien, c'est plein consentement. C'est vraiment un choix libre. Donc, librement, on préfère la créature à Dieu. Tout à fait. Donc là, ensuite, les conséquences que l'on voit, il faut toujours se rappeler que c'est d'un choix libre. Donc, l'âme n'a plus la vie divine. Donc, imaginez, vous choisissez, vous commettez un péché, vous blasphémez volontairement, plein consentement, vous injuriez Dieu, eh bien, Dieu s'en va. Ça ne peut pas être autrement. Et si la mort surprend l'âme à ce moment-là, dans cet état, eh bien, l'état d'aversion, vous êtes détourné de Dieu volontairement, eh bien, cet état d'aversion que vous avez, eh bien, devient éternel, devient immuable. Parce que vous arrivez devant Dieu en état d'aversion de Dieu. Volontairement, vous êtes détourné de Dieu. Et puis, voilà que la mort vous surprend. Eh bien, vous êtes devant Dieu, que volontairement vous avez rejeté, eh bien, vous arrivez devant Dieu, devant cet état-là. Vous rejetez, vous avez rejeté volontairement Dieu. Alors, cette disposition, j'allais dire, dépravée de la volonté, eh bien, ne peut plus subir de changement, puisque maintenant, on est mort. On est fixé pour l'éternité. Donc, notre volonté ne peut plus subir de changement. L'âme ne peut plus revenir au bien ultime dont elle s'est séparée volontairement. Donc, si vous voulez, l'éternité va ne faire que ratifier, que confirmer, si vous voulez, l'état de mort surnaturel librement choisi par l'âme, en se détournant de Dieu. La mort fait que ça. On ratifie effectivement l'état volontaire qu'on avait pris avant de mourir. Donc on se retrouve comme ça, si vous voulez. Donc là, du coup, ce n'est plus le temps de la miséricorde, c'est le temps de la justice. Et là, bien sûr, justice terrible. Justice terrible. Parce que Dieu bien, va venger ces droits que jusque-là, volontairement, ils ont été méconnus. On a méconnu volontairement les droits de Dieu et obstinément méprisés, malgré les appels de sa grâce, bien sûr. Donc ce qui fait, dans cette phrase un peu choc, mais qui est réelle, on peut dire, en enfer, il n'y a que des volontaires. Ben oui, il n'y a que des volontaires. Personne ne sera en enfer en disant, qu'est-ce que je fais là ? Personne. Ceux qui sont en enfer, ils savent pourquoi ils sont en enfer. Parce qu'encore une fois, ils ont refusé Dieu, tout simplement. Donc vous voyez la gravité de ce péché, effectivement. Et pour juger un petit peu du péché mortel, vous voyez comment Dieu le châtie aussi. Dieu nous a donné l'exemple dans la Sainte Écriture de châtiment. Déjà les anges rebelles, pour un péché, les anges. Bon, bien sûr, la différence de nous, c'est que les anges pêchent en pleine lumière. Donc ils ont fait un péché mortel quand c'est détourné de... Eh bien, Dieu les a punis par l'enfer. Regardez ce péché mortel de nos premiers parents. Premier péché mortel. Regardez comment Dieu l'a châtié. Attendez, c'est pas rien. Regardez toute la souffrance dans le monde, la mort, tout le mal que nous voyons dans le monde, c'est dû à ce premier péché. C'est conséquence terrible. Regardez tous les gens qui souffrent depuis ce premier de péché originel. Eh bien, ce péché a fait rentrer la souffrance, la mort dans le monde. Conséquence de ce péché. Ça montre que ce n'est pas rien, un péché. Si Dieu le châtie de cette façon-là, eh bien évidemment, quelle horreur. Et puis ensuite, nous en parlerons un peu plus tard dans la retraite, bien sûr, je crois encore une fois, ce qu'il faut vraiment regarder pour avoir l'horreur du péché, c'est bien sûr la passion de notre Seigneur. La passion de Jésus. Dieu envoie son Fils, et vous voyez de la façon dont il est mort. Pourquoi Jésus a tant souffert ? À cause du péché, à cause du péché. Bon, bien sûr, nous aurons une conférence sur la passion de notre Seigneur. Eh bien, on méditera. Déjà, dans cette passion que nous méditerons, eh bien, il faut bien se dire pourquoi Jésus fait ça, à cause du péché, à cause du péché. Voilà pour ce péché mortel. Alors ensuite, bien sûr, ce qu'on appelle le péché véniel. ce péché véniel, c'est une offense de Dieu, mais qui ne fait pas perdre son amitié. On reste quand même l'ami de Dieu. Et on ne mérite qu'une peine temporelle. Pourquoi on l'appelle véniel ? Véniel, ça vient du latin venia, qui veut dire pardon. Tout simplement parce qu'il se pardonne plus facilement que le péché mortel. Donc ça ne veut pas dire que c'est un petit péché, le péché véniel. Ça veut dire que c'est un péché que bon Dieu pardonne plus facilement. Mais donc, ça reste quand même une offense à Dieu. Et oui, c'est quand même une offense qu'on fait à notre Père. Donc, si vous voulez, ces fautes n'empêchent pas l'union essentielle avec Dieu, mais elles diminuent pourtant la ferveur de cette union. Il faut bien se rendre compte aussi. On dit souvent, on peut venir, oh, c'est pas grave, etc. Attention, attention. Parce qu'elles diminuent quand même, ces fautes vénielles diminuent la ferveur de l'union. Et on peut dire quand même, elles commencent, ces fautes, elles constituent plutôt un commencement d'aversion de Dieu. Comme je vous l'ai dit, le péché mortel, on se détourne totalement de Dieu. Et bien là, on se détourne un petit peu. Jésus, oui, je sais, ça, c'est pas très bien, bon, ben, je le fais quand même. Enfin, bon, on commence un peu à se détourner. Mais on reste encore, bien sûr, avec l'état de grâce. Donc, c'est quand même une défaillance, si vous voulez, dans notre volonté. Notre volonté est quand même défaillante. Ou c'est un fléchissement, si vous voulez aussi, dans l'intensité de notre amour pour Dieu. Notre amour commence à battre de l'aile. Alors, il faut faire une distinction, je pense, importante pour notre vie spirituelle, pour éviter le découragement. Il y a ce qu'on appelle les fautes de surprise, qui résultent de notre tempérament, que nous regrettons, que nous cherchons à éviter. Par exemple, oh, je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait... L'impatience, par exemple. L'impatience, vous connaissez. Bon, ça peut être dû à votre tempérament. Ah, je ne sais pas, parce qu'il y a toujours ces fautes d'impatience. C'est ce qu'on appelle des fautes de surprise, parce qu'avant même que vous ayez dit « ouf », eh bien, vous êtes impatienté. Bon, je crois que ça arrive à tout le monde. Que ce soit en famille, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec des amis, etc. Bah oui, de temps en temps, on peut être impatient. Bon, ça, c'est la faute de surprise qui arrive. Bon, souvent, on les regrette, s'il faut les regretter, on cherche à les éviter. Mais ces misères, j'allais dire, il faut bien se dire, elles n'empêchent pas l'âme d'arriver à un haut degré d'union divine. Ces fautes de surprise n'empêchent pas l'âme d'arriver à un grand degré d'union avec Dieu. Et ces fautes sont effacées bien par des actes de charité, par une bonne communion, etc. Donc ça, je veux dire, il ne faut pas s'en tracasser plus qu'autre mesure. Bien sûr, il faut essayer de corriger ses défauts, c'est vrai. Mais, disons, ne vous dites pas « j'arriverai jamais à être une sainte parce que j'ai ces fautes de surprise, impatience, colère, je ne sais pas quoi, gourmandise ou autre. » Non, ce n'est pas ça. Non, ce qu'il faut craindre dans les fautes vénielles, et là, par contre, oui, il faut combattre, c'est ce qu'on appelle les fautes vénielles d'habitude ou pleinement délibérées, celles qu'on fait exprès. Don Marmion, là aussi, a une belle chose là-dessus, toujours dans Crise vie de l'âme. Donc, c'est ces fautes délibérées, donc on fait exprès. Elles sont un pas trop souvent réel vers la rupture complète avec Dieu. Quand une âme est habituée à répondre pratiquement, sinon de bouche, un non délibéré à la volonté de Dieu, en matière légère, puisqu'il s'agit de péché véniel, elle ne peut prétendre à sauvegarder en elle pendant longtemps l'union divine. Pourquoi cela ? Parce que ces fautes froidement admises, tranquillement accomplies, qui passent sans que l'âme sente du remords à l'état d'habitude non combattue, résulte nécessairement une diminution de docilité surnaturelle, une diminution de vigilance, une diminution de notre force de résistance à la tentation. Et l'expérience montre que d'une suite de négligences voulues dans des petites choses, nous glissons insensiblement, mais presque toujours fatalement, dans les fautes graves. Voilà pourquoi elles sont dangereuses. Parce qu'on admet, on fait exprès, et puis petit à petit, on devient insensible. Donc c'est une désobéissance voulue à Dieu. Ça reste quand même une injure, une insulte à Dieu. Parce que nous mettons en balance sa volonté et puis notre petit caprice. Non, moi, je veux ça. Mon Dieu, je sais bien que vous voulez ça, mais moi, je veux ça. Donc, je fais ça. Bon, vous avez de la chance, c'est une matière légère, mais quand même, on offense quand même le bon Dieu. Donc, si vous voulez, vraiment, par contre, dans la vie spirituelle, c'est ça qu'il faut combattre. Combattre ces fautes vénielles délibérées. Alors, profitez vraiment de cette retraite pour demander et obtenir la haine du péché. À l'époque, il y a un certain temps, je ne sais pas, enfin, paraît-il, en France, les jeunes de banlieue disaient « j'ai la haine ». La haine de quoi ? Ben, ce qu'ils avaient, c'est plutôt la haine de la société, la haine du prochain, la haine du mal-vivre, la haine de je ne sais pas quoi. Enfin, bref, donc, là, en clair, la haine du prochain, la jalousie, etc., l'envie, etc. Donc ça, ce n'est pas une haine catholique, évidemment. Là, la haine que je vous demande, c'est la haine du péché, c'est-à-dire ce qui s'oppose à Dieu. Donc si vous avez bien compris, reméditez ce péché, la gravité du péché, hein, vraiment qui nous sépare de Dieu, de celui de qui nous avons tout, eh bien, il faut en demander vraiment la sainte haine, vraiment haïr ses fautes, hein, qui n'est d'autre terme de Dieu. Alors, il y a plusieurs degrés, si vous voulez, dans cette mort du péché, cette mort au péché. Bien sûr, il faut commencer par le premier degré. Le premier degré, c'est le renoncement complet au péché mortel. Ça, je crois, il faut vraiment que vous sortiez de cette retraite avec cette résolution. Renoncement complet au péché mortel. Oui, parce que là, évidemment, on a rapidement vu les conséquences. Si on est surpris dans cet état-là, c'est une éternité de malheur, donc à Dieu ne plaise. Puis vraiment, maudire Dieu alors qu'on a tellement reçu de Dieu. Enfin, vous voyez, donc déjà se dire, premier degré, renoncement complet au péché mortel. Donc évidemment, après, bon, c'est individuellement, vous voyez, si par malheur vous en commettez, ou dans telle, je sais pas, quelles sont les occasions, qu'est-ce qui vous pousse à commettre telle ou telle faute. Donc c'est un peu là ensuite qu'il faut voir les occasions qu'il faut éviter. Donc première chose, renoncement complet au péché mortel. Ensuite, deuxième degré, renoncement très ferme au péché véniel délibéré. Donc, deuxième degré, on renonce au péché véniel délibéré, hein, celui qu'on fait exprès. Parce que c'est toujours une offense à Dieu, comme je l'ai dit. Donc ne pas l'admettre, hein, sous quelque prétexte que ce soit. Et vous avez des saints qui disaient plutôt mourir que le péché. Donc à Saint Dominique Savio disait ça. Donc il entendait bien sûr le péché mortel, mais aussi le péché véniel délibéré. Non, je ne veux pas, commettre ces fautes volontaires. Parce que ce péché, encore une fois, si on s'habitue, on risque de tomber dans la tiédeur spirituelle. On devient tiède. Et la tiédeur, ben, ensuite, nous emmène souvent au péché mortel. Donc attention à la tiédeur. Donc, justement, Dieu merci, vous êtes ici en retraite, c'est justement pour lutter contre la tiédeur, pour essayer de s'en sortir si peut-être vous êtes tombé dedans. Donc non, au contraire, on va essayer de se sortir de cela. Donc deuxième degré, renoncement très ferme au péché véniel délibéré. Ensuite, troisième degré, eh bien, poursuivre l'extirpation du péché jusque dans les derniers replis de l'âme. Alors là, on s'attaque, j'allais dire, au péché de faiblesse, c'est-à-dire à nos défauts. Quels sont les péchés que je commets le plus fréquemment, dû à tel ou tel péché. Donc c'est ça qu'il faut combattre. Alors demandez cela au cours de cette retraite, hein, donc cette haine du péché par ces degrés. Vous pouvez y aider, là aussi, quand peut-être on est pris vraiment par, encore une fois, peut-être on a du mal à sortir des occasions de péché grave, par exemple. N'oubliez pas aussi, il y a des méditations qui peuvent nous aider. Méditation, par exemple, de la mort. Méditation de la mort sur nos fins dernières. Se dire qu'un jour, ben oui, la vie, on s'arrêtera. Hein. Donc, dans quel état nous serons? Donc, ça peut nous aider à sortir du péché, évidemment. Et puis aussi, comme nous dit l'imitation de Jésus-Christ, eh bien, savoir méditer aussi sur les peines éternelles. Et là, vous avez un très beau passage dans l'imitation de Jésus-Christ. Alors, si vous voulez le relire, c'est livre 1, chapitre 24, paragraphe 7. Celui qui aime Dieu de tout son cœur ne craint ni la mort, ni le supplice, ni le jugement, ni l'enfer, parce que l'amour parfait nous donne un suraccès près de Dieu. Mais celui qui aime encore le péché, il n'est pas surprenant qu'il redoute la mort et le jugement. Cependant, si l'amour ne vous éloigne pas encore du mal, il est bon qu'au moins la crainte du feu vous retienne. Celui qui est peu touché de la crainte de Dieu ne saura longtemps persévérer dans le bien, mais il tombera bientôt dans les pièges du démon. Alors, profitez donc bien de cette retraite pour nous demander, bien sûr, à notre Seigneur, toujours d'exercer sa miséricorde envers vous. Tant que nous sommes dans cette vie, c'est le temps de la miséricorde. Donc, sachons recourir à cette miséricorde du bon Dieu, bien sûr. Et puis, bien sûr, à Notre-Dame également. Elle, forte comme une armée rangée en bataille, elle pourra nous aider à vaincre le démon, à vaincre le péché.
Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chères retraitantes, allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici donc ces dernières paroles que notre Seigneur adresse à ses apôtres sur cette terre, juste avant son ascension. Ces dernières paroles, vous l'entendez, montrent bien l'importance du baptême. Voyez, notre Seigneur demande « Allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, importance du baptême. Alors, essayons bien sûr de rappeler quelques vérités par rapport au baptême. Vous n'avez certainement pas oublié votre catéchisme et vous avez appris que le baptême est un sacrement qui efface le péché originel et les péchés actuels et nous fait enfants de Dieu et de l'Église. Déjà, rien que dans cette définition du baptême, nous voyons bien qu'il faut bien comprendre le péché originel et que le péché originel existe, puisque le baptême va effacer le péché originel. Donc, suppose qu'il existe bien. Nous l'avons rappelé hier, évidemment, ce péché de nos premiers parents qui se transmettent à toute la nature humaine, puisque ce péché était un péché de race, un péché de nature commis par Adam et Ève. Donc déjà, cela suppose le dogme du péché originel. Et en même temps, vous voyez que ce baptême institué par Jésus-Christ nous fait enfants de Dieu et de l'Église. Ce qui veut dire, avant le baptême, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Et oui, c'est logique. Donc ce baptême va nous faire enfants de Dieu. Donc vous voyez tout de suite, ne serait-ce que là-dessus, la nécessité du baptême. Si nous ne sommes pas baptisés, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Donc si nous voulons être enfants de Dieu, il faut que nous soyons baptisés. Donc cette nécessité de baptême est indispensable. Effectivement, le baptême est absolument nécessaire pour le salut. Notre Seigneur l'a dit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Autrement, non. Bien sûr, vous savez qu'on distingue trois sortes de baptême, si on peut dire, le baptême d'eau, donc baptisé quand le prêtre verse de l'eau sur la tête du baptisé en prononçant les paroles, donc c'est le sacrement de baptême. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle le baptême de désir, ce baptême de désir qui est un acte de charité parfaite par lequel on désire faire la volonté de bon Dieu. Et ce désir de faire la volonté du bon Dieu inclut aussi la volonté au moins implicite, ce désir au moins implicite du baptême. Donc ça, c'est le baptême qu'on appelle de désir. Et puis le troisième catégorie, c'est qu'on appelle le baptême de sang. C'est ni plus ni moins le martyr. Le martyr où la personne est tuée en haine de Jésus-Christ et désire appartenir à Dieu. Pour les enfants, vous savez qu'il ne peut exister pour eux que le baptême d'eau ou le baptême de sang. Nous avons l'exemple avec les saints innocents. Mais pas le baptême de désir, parce que par définition, ils n'ont pas l'âge de raison. Donc ils ne peuvent pas poser un acte de désir du baptême. Donc les enfants, eux, ne peuvent recevoir que le baptême d'eau et exceptionnellement le baptême de sang. Oui, le baptême est nécessaire car il est comme la naissance spirituelle dans laquelle nous est conférée la vie de la grâce. En effet, par nos parents, nous avons reçu la vie naturelle. Mais si nous n'avions que cette vie naturelle, nous ne verrions jamais Dieu. Jamais nous ne pourrions voir Dieu. Pourquoi ? Parce que cette vie naturelle nous fait fils d'Adam. Et vous le savez, je l'ai rappelé, nous sommes marqués dès la conception par cette faute originelle. Donc notre vie est empoisonnée dès sa source, dans sa source. Ce qui fait que cette vie naturelle est totalement stérile pour le ciel. Mais Dieu veut nous donner une vie supérieure. veut nous donner une vie supérieure qui, sans détruire bien sûr cette vie naturelle dans ce qu'elle a de bon, néanmoins va nous surélever. C'est la vie surnaturelle. Donc Dieu veut nous communiquer, veut nous donner sa propre vie. Et cette vie qu'il veut nous donner, cette vie divine, nous allons la recevoir par une nouvelle naissance, une naissance spirituelle, qui va nous faire naître de Dieu, tout simplement. Nous allons naître de Dieu. Donc cette vie que nous allons recevoir va être une participation à la vie de Dieu. Participation à la vie de Dieu. Ce qui fait que, ainsi, cette vie-là va être pour nous un gage, une promesse de la béatitude éternelle. Rappelez-vous, oui, nous allons vivre de la vie de Dieu. Et si nous n'avons pas cette vie de Dieu, eh bien, par malheur, nous risquerions d'être exclus pour toujours de la société divine. Or, le moyen régulier institué par Jésus-Christ pour naître à cette vie surnaturelle, à cette vie divine, c'est le baptême. C'est le baptême, et c'est notre Seigneur qui l'a expliqué très bien à Nicodème. Vous savez, ce juif qui était venu voir, ce savant qui était venu voir notre Seigneur, même de nuit, parce qu'il avait peur de ses contemporains, et notre Seigneur va lui parler tout un beau discours sur le baptême. Entre autres, il va lui dire « Nul, s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. » Donc, notre Seigneur compare vraiment le baptême à une nouvelle naissance. Donc, si nous n'avons pas cette nouvelle naissance, eh bien, nous ne pourrons pas vivre de la vie de Dieu. Donc, vous voyez ainsi vraiment cette nécessité du baptême. Ce qui fait tout de suite comme obligation qui va en découler, eh bien, va être une obligation pour les parents. Pour les parents de faire baptiser leur enfant, comme on dit, quam primum, c'est-à-dire dès que possible, pour qu'il n'ait pas le malheur de mourir sans baptême. Parce qu'un enfant qui meurt sans le baptême, eh bien, il ne peut pas aller au ciel. Ce n'est pas possible. Il n'a pas la vie de Dieu dans son âme. Donc, il ne peut pas aller au ciel. Bien sûr, il n'a pas commis de péché actuel. Donc, il ne peut pas aller en enfer non plus. Bien sûr, parce qu'il n'a pas mérité l'enfer, c'est clair. Donc, l'Église parle ainsi des limbes. Des limbes qui est ce lieu où vont les enfants qui sont morts sans baptême. Ce lieu d'un certain bonheur naturel, où en tout cas, bien sûr, ils sont privés de la vision béatifique de Dieu, donc ça, ils ne l'auront jamais. Mais ne sachant pas ce que c'est que cette vision béatifique, ils ne vont pas en souffrir. Donc, ils vont rester avec un certain bonheur naturel, mais qui malheureusement est beaucoup moindre que le bonheur du ciel, c'est évident. D'où la grave obligation pour les parents, bien sûr, de faire baptiser leur enfant dès que possible. Alors, une fois baptisé, quels sont les effets de ce baptême? Bien sûr, premier effet, effacer le péché originel que les enfants apportent en naissant. Et chez les adultes, ceux qui sont baptisés adultes, en plus sont effacés les péchés actuels, c'est-à-dire les péchés qu'ils ont commis avant le baptême. Donc, premier effet négatif, le baptême efface le péché. Mais ensuite, effet beaucoup plus merveilleux, le baptême va nous donner, va nous communiquer la vie de la grâce. C'est-à-dire, il nous fait enfants de Dieu, frères de Jésus-Christ, et donc c'est co-héritier. Donc nous allons aussi pouvoir avoir part à l'héritage de Jésus-Christ, c'est-à-dire au ciel. Et en plus, avec la grâce, nous allons recevoir les dons du Saint-Esprit, toutes les vertus infuses, les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, toutes les vertus morales aussi, qui vont être infusées dans notre âme. Ensuite, nous allons recevoir avec la grâce sanctifiante ce que nous appelons la grâce sacramentelle. Et là aussi, il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce que c'est que cela? Eh bien, c'est le droit que nous avons de recevoir des secours, ce qu'on appelle des grâces actuelles, nécessaires pour conserver cette vie spirituelle reçue au baptême, et pour recevoir dignement les autres sacrements. Et oui, ne l'oublions pas. Quand le bon Dieu, par cette grâce du baptême, va nous donner ce droit, nous avons un droit à recevoir les grâces pour vivre chrétiennement. Alors, quand peut-être nous avons un peu de mal, précisément, à vivre chrétiennement, eh bien, demandons au bon Dieu, « Seigneur, ce jour-là, ce jour de mon baptême, vous m'avez donné ce droit à recevoir des grâces. Alors, je vous en supplie, donnez-les-moi. Donc ces grâces qui vont nous permettre de garder cette vie de la grâce, cette vie spirituelle reçue le jour de notre baptême. Ensuite, comme autre effet aussi, également, le baptême va imprimer dans notre âme un caractère. On va recevoir un caractère, une espèce de sceau, si vous voulez, indélébile, qui est le sceau du Christ qui va nous distinguer de l'infidèle, de celui qui n'est pas baptisé. Donc, aux yeux de Dieu, il y a une grande différence entre un chrétien baptisé et celui qui ne l'est pas. Celui qui est baptisé possède dans son âme une marque indélébile qui le montre vraiment disciple de Jésus-Christ. Donc vraiment une grâce est beaucoup plus importante que bien sûr que celui qui ne l'a pas. Et ce caractère va nous rendre capables de recevoir les autres sacrements. Donc le baptême est la porte des autres sacrements. Voici tous ces effets. Mais ayant reçu tout cela, tous ces effets merveilleux, nous allons avoir aussi bien sûr des obligations. Parce que Dieu nous rend son amitié, il nous adopte comme ses enfants, il va nous restituer dans notre droit au ciel avec toutes les grâces nécessaires pour y parvenir, mais en contrepartie, quelles sont nos obligations? Eh bien, nous avons renoncé pour toujours à Satan. Nous sommes attachés à Dieu, mais pour cela, nous renonçons à Satan. Nous avons renoncé à Satan, à ses suggestions, à ses maximes, à ses œuvres, etc. Donc au péché et à toutes les occasions du péché. Donc bien nous rappeler aussi cette obligation que nous avons prise ce jour-là. Oui, nous sommes enfants de Dieu, mais nous avons renoncé au péché. Et puis nous avons fait, le jour de notre baptême, cet engagement solennel de nous attacher à Dieu pour toujours. En pratiquant ces vertus de foi, d'espérance, de charité, nous sommes engagés à le servir fidèlement en observant ses préceptes. Nous sommes engagés à imiter Jésus-Christ dans ses vertus, etc. Voilà nos obligations qu'il ne faut peut-être pas oublier, ces obligations de notre baptême. Et d'ailleurs, l'Église nous fait rappeler, nous fait redire chaque année dans la veillée pascale, le samedi saint, dans la nuit de Pâques, eh bien, nous fait renouveler ces engagements de notre baptême, précisément pour que nous ne l'oublions pas. Le baptême a été le jour le plus important de notre vie, parce que c'est ce jour-là où nous sommes devenus enfants de Dieu. Ainsi, bien toute notre vie chrétienne, eh bien, n'être autre chose finalement que le développement progressif et continu, si vous voulez, l'application pratique à travers toute notre existence de ce double acte initial posé le jour de notre baptême. Cet acte de mort, mort au péché, et cet acte de vie, vie pour Dieu. Et c'est là tout le programme du christianisme, tout simplement. Nous devons mourir au péché pour vivre de la grâce de Dieu. Alors, eh bien, soyons reconnaissants au bon Dieu de cette grâce qui nous a faite, cette grâce du baptême. Ayons aussi un grand amour pour ce bienfait du baptême. Sachons rendre grâce à Dieu de ce baptême. Sachons tous les jours, oui, mon Dieu, merci de m'avoir fait cette grâce. Sachons aussi nous souvenir des promesses, des obligations de notre baptême. Non, ne négligeons pas ces engagements que nous avons pris. Et puis demandons également à Notre-Dame, à la Très Sainte Vierge Marie, eh bien, de nous aider à être fidèles et de vivre comme des baptisés. Et si nous vivons comme des baptisés, ainsi nous pourrons parvenir un jour au royaume du ciel. Donc demandons cette grâce à la Très Sainte Vierge Marie de la fidélité aux promesses de notre baptême, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.